21h passée de quelques secondes sur votre radio locale. En effet, comme chaque mercredi à pareille heure, le moment est venu de retrouver votre émission littéraire sur Radion. Bonsoir à toutes et à tous. C'est Wagon Livre, 343e numéro. Aujourd'hui, bien sûr, un nouvel invité devant notre micro pour nous accompagner. Liliane Mosca, bonsoir.
Bonsoir.
Merci Liliane d'être venue de l'aube devant notre micro. Vous renouez avec Lyon, un département que vous connaissez bien.
Oui, que j'aime beaucoup.
Alors, un nouveau roman apparu mi-mars dernier,
oui,
aux presses de la Cité. Ce nouveau roman a pour titre « La vie rêvée de Gabrielle, muse des Renoirs ». L'an dernier, vous aviez fait paraître « Les amants de Mône », une histoire romanesque, nourrie de secrets et d'amours interdits, dont l'action se situait en grande partie dans le Tonnerrois, à Ancilfranc, notamment entre 1945 jusqu'au début des années 60. Il y avait aussi toute une intrigue chargée de légendes, notamment avec les ruines du château de Mône, ce château mystérieux,
oui,
dans le Tonnerrois, qui a été d'ailleurs complètement amélioré au niveau de son esthétique par le conseil départemental de Lyon. Donc c'est vos origines. Vous êtes né en Côte d'Or, mais vous avez grandi,
oui,
à Ancilfranc notamment.
J'ai grandi à Ancilfranc, oui, pas loin du château justement, dont je parle aussi dans Les Amants de Mône.
Et vous avez également grandi en Puisaye dans
ensuite,
l'adolescence.
Oui, j'ai été élevée par mes grands-parents jusqu'à 9 ans. Et ensuite, je suis allée chez mes parents qui tenaient un commerce en Puisaye, pas loin de Toussy.
Alors cette année, donc, un nouveau roman dont je rappelle le titre « La vie rêvée de Gabrielle ». C'est votre 10e roman. C'est un roman vrai qui raconte le destin incroyable de Gabrielle Renard qui, fin 19e siècle, quitte son petit village champenois pour se rendre à Paris et devenir bonne puis nourrice dans la famille du célèbre peintre Pierre-Auguste Renoir. Qu'est-ce qu'un roman vrai, Liliane Mosca, déjà ?
Eh bien, je pense que c'est une histoire qui a existé vraiment, avec une personne qui a vraiment existé. Donc, Gabrielle est de l'Aube, hein, de ce petit village des Soies dont vous parliez. Et je m'étais dit que j'aimerais bien mettre un personnage féminin en lumière qui a eu un destin un peu particulier. Et donc j'ai rencontré son petit-neveu Bernard Pharisien qui m'a donné les documents et ça m'a tout de suite plu et j'ai eu envie d'en faire un roman de cette biographie.
J'ai l'impression que vous aimez bien les héroïnes, que vous aimez plus les héroïnes que les héros.
Ça s'est trouvé comme ça, mais pas forcément.
Alors comment avez-vous eu connaissance de cette Gabrielle Renard qui est au cœur de votre roman avec le peintre Renoir ? D'ailleurs, il y a cette proximité phonétique, ce qu'on appelle une paronomase, Renard-Renoir. C'est souligné d'ailleurs dans le roman.
J'en parle dans le... Oui, je lui fais dire ça à Gabrielle. J'ai eu connaissance parce que j'habite dans l'Aube et que Renoir a eu une maison. Il a habité dans l'Aube, hein, il est enterré dans l'Aube, à Issoix. Et donc, l'histoire de Gabrielle est un peu connue quand même, grâce à son petit-neveu qui fait visiter le village des Soies et qui raconte son histoire. Donc, c'était un peu connu. Je connaissais un peu Gabrielle. Et grâce au document qu'il m'a confié, je suis rentrée de plein pied dans sa vie.
Alors, on peut encourager celles et ceux qui nous écoutent, via un moteur de recherche, à taper Gabrielle Renard. Alors, il y a des photographies noir et blanc, mais il y a aussi des peintures de Renoir. Et on la voit, cette Gabrielle, peinte par le Renoir, avec ce petit garçon qui est le fils, celui qui va devenir le cinéaste.
Celui qui deviendra, oui, Jean Renoir, qui deviendra le cinéaste.
En introduction à votre roman, Liliane Mosca, il y a une citation d'Anatole France. « Bienheureux est celui qui, cessant de penser et de comprendre, s'abîme dans la contemplation de la beauté. » S'abîmer dans la contemplation de la beauté, vous vous abîmez dans la contemplation de la beauté, Liliane ?
Abîmer, c'est un grand mot, mais disons que je pense que ça peut apporter beaucoup de consolation dans la vie, la beauté.
Ce nouveau roman, j'ai l'impression que c'est quand même un hymne justement à la beauté et aussi à la beauté féminine. Il y a une célébration de la femme à travers aussi l'œuvre artistique.
Oui, bien sûr. Oui. Gabrielle était belle. En plus, elle avait du tempérament. Je pense qu'elle méritait d'être mise en lumière. Et ça m'a plu de le faire.
En tout cas, cette célébration du corps de la femme et du corps nu de la femme Si on prend aussi la couverture du roman, on a une silhouette de jeune femme dans une robe d'une blancheur.
C'est romantique. C'est
milieu d'un champ de blé.
Romantique, oui.
L'héroïne, au début du roman, a 16 ans. Et c'est une provinciale, donc elle est dans ce petit village des Soies.
Voilà.
Quelles ont été vos recherches et qu'est-ce qui est à disposition d'une romancière qui veut écrire un roman vrai pour ne pas trop trahir la vérité sur Gabriel Renard et sur le peintre?
Comme je vous disais, j'ai fait la connaissance de son petit-neveu. Donc, lui a la biographie complète. Il a écrit la biographie complète de Gabriel, puisque c'était sa grand-tante. Donc, il s'y est particulièrement intéressé. Donc, il me l'a confié. Donc, je n'ai pas eu trop de recherches. J'avais tout.
J'avais tout,
plus des documents, plus ce qu'il me racontait, des anecdotes. Donc, on s'est rencontrés plusieurs fois. Donc, j'avais de la matière. J'avais de la matière et j'ai construit mon roman en suivant au plus près la vie réelle de Gabriel. Aux côtés des Renoir, elle les a suivis partout, donc j'ai suivi son périple.
Alors, je disais que ce roman était un éloge de la beauté féminine, et effectivement, si je prends la première phrase de votre roman, Liliane Mosca, que je vais lire, « Du haut de ses 16 ans, Gabrielle Renard, brunette tout en rondeur gracieuse, a décidé de mordre dans la vie, certaine ou presque, que son destin ne sera pas ordinaire. » Voilà une introduction alléchante et qui effectivement va connaître un développement avec ce roman parce qu'elle a eu une destinée extraordinaire. Cette petite paysanne champenoise qui n'est qu'une bonne chez dans une famille de la bonne bourgeoisie parisienne.
Oui, elle a servi elle était engagée pour être nourrice de gens qui allaient naître, mais en attendant elle était bonne et ensuite elle était bonne et elle a tout fait, hein. Elle a fait modèle, donc elle a tout fait chez le Renoir. La cuisine et tout, elle était vraiment à leur disposition.
Les Renoir n'ont pas fait appel à une Morvandelle, à une nourrice Morvandelle. Ils ont pris une champenoise.
C'était une nourrice sèche, comme on dit, c'est-à-dire qu'elle n'a pas allaité. Donc, et en plus, Aline Charigot, femme de Renoir, était des Soies, vaguement en parenté avec Gabriel. Donc c'est tout naturellement qu'elle a engagé Gabriel. Elle connaissait ses parents et voilà, ça s'est fait tout naturellement.
Alors, concernant ce petit village des Soies, Renoir y a peint certaines scènes rustiques, champêtres, bucoliques.
Sa femme Aline était donc des Soies. Et ensuite, elle a voulu qu'ils achètent une maison à Soies. Et il s'y plaisait beaucoup parce que Renoir aimait la vie simple et les paysages de l'Aube au bord de l'Ours, la rivière. Et donc, il a trouvé pas mal d'inspiration là.
Et cette maison existe toujours.
Ah oui, elle existe toujours. Elle est même réhabilitée et on peut la visiter.
Donc, elle est, en fait, Bernard Pharisien, qui est donc le petit-neveu
de Gabriel, oui.
Est toujours en vie.
Oui, lui, toujours en vie, oui.
C'est quelqu'un qui a quand même un certain âge, je suppose, maintenant.
Il doit avoir 75 ans, à peu près.
Oui. Et il fait visiter cette maison.
La maison, il fait visiter le village en donnant toutes les anecdotes possibles qu'il connaît. J'ai même pas pu parler de tout, hein. Franchement.
C'est une maison
tout.
Que les Renoir n'habitaient un petit peu que l'été.
Oui,
pas
ils habitaient que l'été, ils invitaient, voilà.
Liliane Mosca, vous êtes l'invitée de Wagon Livre ce soir sur Radion. On marque une première petite pause musicale et puis on retrouve nos auditrices et auditeurs dans une poignée de minutes.
Donner l'envie de croire à l'amour. J'ai oublié ce qu'était l'ennui avec tes mots de velours, tes promesses qui m'obsèdent nuit et jour. Je veux me réveiller chaque matin, ton corps blotti contre le mien. Je veux mon cœur rempli de mains pour qu'il batte avec le temps. même si souvent tu me mens, amour, amant et ennemi, toujours contre toi, je m'oublie. Je veux me réveiller chaque matin, ton corps blotti contre le mien. Je veux mon cœur dans tes deux mains pour qu'il batte avec le tien. Cache derrière tes airs indifférents. Sous tes baisers et tes caresses, je sais qu'il y a tes sentiments. Tu m'aimes chaque jour plus profondément. Je veux me réveiller chaque matin, ton corps blotti contre le mien. Je veux mon cœur en tes deux mains pour qu'il batte avec le tien.
Wagon Livre, votre émission littéraire. Chaque semaine, Yannick Petit offre un certain regard sur la création et explore l'actualité littéraire et éditoriale. Wagon Livre, en direct chaque mercredi à 21h sur Radion et Radion.fr. Proposé et présenté par Yannick Petit, archives et podcast sur yannickpetit.fr.
La destinée hors du commun de Gabrielle Renard, qui sera muse et figure féminine incontournable de deux artistes majeurs du XXe siècle, le peintre Auguste Renoir et le cinéaste Jean Renoir, eh bien c'est Gabrielle Renard qui est au cœur du nouveau roman de notre invitée Liliane Mosca, ce soir à bord de Wagon Livre. Ce qui est très intéressant avec votre dernier roman, Liliane, c'est qu'on arrive au Paris d'avant 1900. L'action se termine fin des années 50, on peut le dire, avec la disparition de Gabrielle Renard. Hein, c'est un mystère pour personne.
Aux États-Unis.
Elle disparaît aux États-Unis. Et ce qui est beau aussi, c'est qu'on voit toute l'évolution. L'histoire est tout en tension. C'est un Paris, alors surtout au début, le Montmartre qu'habitent les Renoir. Et là où arrive ce quartier parisien, où arrive notre belle et gracieuse Gabrielle, n'a rien à voir avec le Montmartre d'aujourd'hui.
Non, c'est encore la campagne. C'est encore la campagne. Et ce qui lui plaît, elle n'est pas trop dépaysée, en fait. Quand elle fait sa première sortie, elle voit des animaux, elle voit des poules. Elle est heureuse. Elle se sent bien.
Et puis, on a l'impression que ce village de Montmartre... oui, je l'ai dit, que ce quartier de Montmartre est un village,
oui,
comme vous le dites.
Oui, c'est un village, oui, c'était vraiment un village. Oui.
Il y a des baraques en bois.
Les gens se connaissaient, oui, oui, c'était comme un village.
Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il faut se rappeler que d'abord Montmartre a été un vrai village d'artistes et qu'ensuite les artistes sont partis plutôt vers Montparnasse, qui est devenu le centre artistique
parisien.
Mais
c'est vrai qu'elle a connu Toulouse-Lautrec, qui venait souvent dans le quartier. Il y avait pas mal d'artistes et d'artisans aussi.
Alors des petites bicoques en bois, des gens très, très fortunés. Et puis vous parlez du maquis. C'est quoi ce maquis à Montmartre?
C'est un quartier, hein. C'est un quartier de Montmartre où il y avait un peu de tout. Justement des gens, beaucoup d'artistes, beaucoup d'artisans comme je disais.
C'était la bohème un peu, quoi.
Oui, c'était la
bohème,
ça,
la vraie bohème montmartroise.
La bohème, c'était comme ça avant. Ça a changé après, bien sûr.
Et alors, les Renoir occupent un château qui a, au 13 rue Girardon, qui a un nom bien particulier.
Le château des Brouillards, oui, qui était un peu en hauteur, oui.
Alors, il me semble que Roland Dorgelès a écrit un roman qui s'intitule Le Château des Brouillards.
C'est possible, mais oui, c'est possible.
Paris est une aventure pour Gabriel. D'ailleurs, au tout début de votre roman, c'est page 17, vous écrivez « Des filles parties joyeuses et pleines d'audace à l'assaut de la capitale et revenues tête basse, déçues ou plus encore, déshonorées parfois. »
Oui, c'est vrai que c'était souvent le cas, enfin ça arrivait. Elles partaient pleines d'espoir vers la capitale, avec l'espoir d'une vie nouvelle et trépidante. Et puis elles se faisaient des fois séduire et revenaient, en fait, oui, très déçues, elles revenaient dans leur village.
Alors, Gabrielle, on peut dire qu'elle a beaucoup d'audace. Je ne dis pas que c'est une inconsciente, elle fait un peu facilement confiance. Elle a beaucoup d'audace, elle est extrêmement, elle est aussi un peu naïve peut-être. Elle a 16 ans au début du roman, quand elle arrive chez les Renoir.
Oui, mais en fait, chez Renoir, ben déjà elle se plaît tout de suite, parce que puis il y a quand même un cadre, elle est quand même encadrée. Elle, je crois qu'elle ne sort pas comme elle veut. Hein. Madame Renoir la surveille quand même.
Hein. Madame Renoir est un personnage pas si sympathique que cela.
Eh bien, au départ, je pense que si, mais ensuite, elle a nourri un peu de jalousie contre Gabriel, parce que Gabriel s'est fait aimer de ses enfants.
Donc, et elle puis s'est sentie, aussi du peintre.
Ah oui, évidemment, ouais. Du peintre. Mais ça, l'histoire du peintre, le peintre, il a peint toutes ses bonnes. Gabriel n'était pas la seule, mais Gabriel était toujours là. Et il disait toujours que sa peau prenait bien la lumière. C'était le modèle parfait pour lui, en fait, je pense.
Daline Renoir, que sait-on de cette femme, ces femmes qui vivent un peu dans l'ombre aussi, dans une époque un peu machiste tout de même, où c'est l'homme qui domine. Elle était, alors bon, au niveau santé, elle au niveau corpulence, elle termine mal quand même sa vie.
Mais Aline Renoir avait quand même du tempérament et c'est elle qui s'occupait vraiment de l'intendance parce que Renoir avait toujours la tête dans les étoiles et il s'occupait de rien. Donc elle s'occupait de ses affaires aussi avec les marchands de tableaux. Elle était assez... elle s'occupait de tout ça, assez énergique, disons. Et ensuite, elle s'est laissée aller. C'est dommage parce que quand il l'a épousée, elle était mignonne. Elle avait 15 ans de moins que lui. Elle était très mignonne. Il l'a peint, on se rappelle du...
Le déjeuner des canotiers,
voilà, oui. Où elle était bien en chair, mais très mignonne. Et ensuite, après la naissance de Jean, elle est devenue très, très grosse, hein, forte.
Obèse, c'est l'adjectif que vous utilisez.
Elle était obèse. Et beaucoup ensuite, elle a eu du diabète, oui. Et elle n'y faisait pas attention, elle ne se soignait pas.
Cette famille Renoir. Les Renoir auront trois fils. Il n'y a pas de filles non plus chez les Renoir.
Non, il n'y a pas de filles. Il y a Pierre, Jean et Claude.
Alors, Pierre, c'est l'aîné. Jean, donc, c'est celui qui va devenir le cinéaste, qui est né en 1894. Le plus jeune naît, lui, en 1901.
Voilà. On le rencontre moins dans mon livre.
Alors, la célébrité de Renoir, c'est qu'il est l'artiste impressionniste. Il a une cote très importante.
Oui, il vend beaucoup de son vivant, lui. Il vend énormément,
Et l'État a même acheté une peinture à Renoir.
Oui. La jeune fille au piano.
C'est ça, jeune fille au piano.
Je pense que c'est ce qui l'a vraiment propulsé. Et ensuite, il n'a pas arrêté de peindre. Il produisait vraiment, vraiment beaucoup. Et il vendait beaucoup.
Tout à l'heure, je disais qu'on était... dans le contexte du Paris d'avant 1900, les belles années, une forme d'insouciance. Bon, il y a la guerre de 14, il y a tout de même deux fils Renoir qui vont être mobilisés au cours de la Première Guerre mondiale. Et puis, comme vous déroulez la vie de Gabriel qui meurt en 1959, il y a aussi la Seconde Guerre mondiale, il y a l'épisode américain. Et puis, bon, la vie, on ne va peut-être pas tout raconter sur Gabriel, il faut
non,
le laisser un petit peu.
Mais on peut dire quand même qu'elle a fait un mariage inespéré avec un Américain.
Tout à fait. Et justement, vous déroulez l'histoire culturellement. On voit les Renoir tout d'un coup acquérir un véhicule Renault.
Oui.
Ah, ils ont un chauffeur, ils se prennent au Baptistin, semble-t-il.
Oui.
Et on est loin de la calèche, de l'appâtage, de l'inconfort ou même du train. D'ailleurs, il y a un moment, alors je ne sais pas où vous puisez ces détails. Les Renoir ont voyagé en train, me semble-t-il, pour se rendre. Alors, je ne sais plus si c'est dans le sud ou à Essois, peu importe. Eux sont en première classe.
Oui.
Tandis que Gabriel a été en troisième.
Et oui.
Il y avait cette distinction.
Ah oui, tout à fait, ça c'est vrai. Ça c'est une anecdote que M. Pharisien m'a racontée, c'est vrai. Puisqu'elle dit même, oh là là, M. Renoir, comment ça se fait, vous avez voyagé en première, moi en troisième, et finalement on arrive ensemble. C'est vrai, elle a toujours gardé son franc-parler, sa sincérité, et en fait, son naturel qui plaisait à Renoir, je crois.
Alors, Renoir était agacé parfois par les audaces de Gabrielle.
Oui, parce que
dans votre roman, vous montrez un Renoir parfois qui s'agace, qui la remet un petit peu en place.
Elle agaçait Renoir, elle agaçait Madame Renoir aussi, et, oui, de temps en temps, parce qu'elle était un petit peu audacieuse. Elle avait son franc-parler et quand elle avait envie de dire quelque chose, elle le disait.
Donc votre tout dernier roman est un roman vrai et en couleur, précise d'ailleurs la quatrième de couverture, donc qui commence en 1894 et qui raconte l'histoire de cette jeune campagnarde, Gabrielle Renard, qui quitte sa Champagne natale pour devenir bonne puis nourrice chez les Renoir. Votre roman a pour titre « La vie rêvée de Gabrielle ». On marque une nouvelle étape musicale et puis on se retrouve juste après donc avec Liliane Mosca qui est avec nous jusqu'à 22h sur Radio.
Silence les crayons sur les branches immobiles, les arbres font des rayons et des ombres subtiles. Silence dans la maison, silence sur la colline, c'est le parfum qu'on devine. C'est l'odeur de saison, mais voilà l'homme sous ce chapeau de paille, des taches plein sa blouse et sa barbe en bataille. Cézanne peint. Laisse s'accomplir la magie de ses mains. Qui ne voit rien, si le bonheur existe, c'est une épreuve d'artiste. Cézanne le sait bien, vibre la lumière, chanter les couleurs. Il y met sa vie, le bruit de son cœur. Et comme un bateau porté par sa voile, doucement le pinceau glisse sur la toile. Et voilà l'homme qui croise avec ses yeux le temps d'un éclair, le regard des dieux. Ses actes laisse s'accomplir le prodige de ses mains. Rien, si le bonheur existe, c'est une épreuve d'artiste. Cézanne le sait bien, quand Cézanne
Wagon Livre, votre émission littéraire. Chaque semaine, Yannick Petit offre un certain regard sur la création et explore l'actualité littéraire et éditoriale. Wagon Livre, en direct chaque mercredi à 21h sur Radion et Radion.fr. Proposé et présenté par Yannick Petit, archives et podcast sur yannickpetit.fr.
La vie rêvée de Gabriel, c'est le titre du dernier roman de Liliane Mosca, qui est notre invitée. On l'a dit, Renoir, artiste impressionniste, un peintre reconnu, qui peint des femmes, pas que, mais des femmes nues. Et justement, il y a débat aussi dans le roman. Il faut imaginer, en 1900, une femme qui se dénude pour un peintre. Et là, Liliane Mosca, vous allez nous donner lecture d'un passage au cours duquel Gabriel essaie d'argumenter et explique à un jeune amoureux que poser nu pour un peintre, c'est quelque chose d'assez naturel pour elle.
Oui, alors elle le dit avec ses mots. Elle lui dit « Mais bêta, ce n'est pas de l'amour. Quoi d'autre ? Autre chose, il n'y a pas de mots. Comment lui confesser que Renoir la caresse avec son pinceau et que, si c'est érotique, c'est sans conséquence ? Comment expliquer ce qu'elle ressent ? Que poser est une façon de participer à une création, que ce n'est en aucun cas lubrique, mais au contraire très pur. Elle rougit cependant en pensant au trouble qui l'avait envahi à Aix-les-Bains. Mais comment traduire ce qui l'unit à Renoir ? Elle sait seulement qu'il lui est cher et que c'est réciproque. Sentiment ambigu peut-être, mais précieux, que personne ne saurait concevoir sans y voir du péché. »
Merci Liliane Mosca. Pensez-vous qu'il était difficile à l'époque aux femmes de poser nues pour un peintre un peu avant 1900. Est-ce qu'aujourd'hui, alors, et ma question est un peu double et je m'adresse à une femme, vous Liliane Mosca, est-ce que vous auriez pu poser nue pour un peintre ?
À cette époque-là, je ne sais pas.
J'ai un certain culot à me permettre cette question.
À cette époque-là, je ne sais pas, mais personnellement, peut-être pas, j'aurais peut-être eu du mal, je ne sais pas.
Est-ce que vous pensez les jeunes filles d'aujourd'hui plus dévergondées que celles du temps de Gabriel ?
Oui, un peu quand même. Mais surtout, c'est les filles de la campagne. À la campagne, Gabriel, quand elle revenait à soi, on la montrait un peu du doigt. Elle se met nue devant le peintre, c'était quand même mal vu. Même sa famille était gênée par rapport à ça.
Et à soi, on jasait quand même. Renoir, c'est le peintre qui tout de même peignait des femmes nues.
Voilà. Oui,
il n'a pas fait que cela. Mais
il n'avait pas très bonne réputation dans le village. Quoi. On admirait son travail, mais le fait qu'il peigne les bonnes en déshabillé, ça ne passait pas toujours bien au village.
À un moment, alors certes, l'épouse de Renoir, Aline, est jalouse de Gabriel, mais à un moment, tout de même, Madame Renoir parle de son mari en disant qu'il est un vieux cochon. Est-ce que c'est vrai là ou est-ce que c'est un peu de la fiction ?
Je pense qu'elle elle y croyait de temps en temps quand même, parce qu'il a peint toutes ses bonnes et déshabillé. Je pense qu'elle ne se faisait pas trop d'illusions quand même, mais elle savait aussi ce que c'était clair, Madame Renoir. Donc elle lui a pardonné beaucoup de choses.
Alors il est question d'un autre peintre qui, lui, allait chercher ses modèles dans des lieux plus glauques ou plus malfamés, disons.
Plus Lautrec.
Oui, absolument.
Oui. Mais Renoir aussi aurait pu trouver d'autres modèles. À Paris, les filles avaient l'esprit plus libre quand même qu'à la campagne. Il en trouvait des modèles. Mais Renoir préférait ne pas les payer, en fait. Alors, il avait Gabriel sous la main et ses bonnes sous la main.
Alors, il y a aussi de très, très beaux portraits de Gabriel avec le petit Jean Renoir. Les
peintures
existent.
Ah oui, il n'y a pas que des nus de Gabriel, oui, oui. Il aimait bien aussi peindre ses enfants avec sa femme. Il en a peint beaucoup avec sa femme. Et ensuite, Gabrielle, elle est souvent sur les tableaux avec Jean.
Alors, les peintures de Renoir ne sont pas des peintures très sophistiquées. Renoir est un homme simple et il aime les univers simples et vrais, des scènes quotidiennes, alors intimes, de famille ou alors campagnardes.
Tout à fait. Les laveuses, les baigneuses. Ou les scènes avec les enfants, oui.
Et c'est amusant parce qu'on se rend compte que, et Renoir, alors vous le lui faites dire cela à Gabriel, Renoir n'a pas conscience qu'il est tout de même un grand, grand nom de la peinture. Je le trouve très modeste, cet homme, dans votre roman. Il l'était réellement ?
Je pense qu'il l'était, oui, il l'était. Mais il savait aussi qu'il vendait bien, qu'il avait du succès, donc ça le réconfortait, dans ces moments, surtout à la fin de sa vie où c'était très difficile puisqu'il était malade. Mais il est quand même resté assez humble parce qu'il aimait bien revenir à Essois et vivre simplement. Mais il aimait bien aussi l'argent que ses toiles rapportaient.
Alors, à Gabriel, Renoir dit ceci, c'est dans votre roman, « Si je n'avais pas peint, j'aurais cultivé la terre. » C'est un peu la même chose. On travaille la matière pour qu'il en sorte quelque chose de beau.
Oui. Oui, il trouvait le travail de la terre très noble.
Et vous, Liliane, qui avez passé plus de temps en milieu rural, vous êtes attachée à la terre, tout en sachant que votre roman est édité dans la collection Terre de France.
Oui, moi je suis attachée aux choses authentiques, je suis une nostalgique.
Vous êtes nostalgique?
Ah oui, tout à fait.
D'une ruralité où l'on vivait simplement?
D'une ruralité qui est disparue en fait. Oui, moi j'aimais, moi, dans tous mes livres, mes livres parlent de la campagne. Je préfère la campagne à la ville, je préfère les villages.
Et d'Ancy-le-Franc, qu'avez-vous gardé? Alors, des images, bon, vous n'êtes pas non plus d'une génération. Mais qu'est-ce que vous gardez de cette enfance rurale à Ancy-le-Franc?
Pour moi, c'était...
C'est des visages, des personnes, des traditions?
Des personnes et la douceur de vivre... Les pêcheurs au bord du canal, les baignades dans l'Armançon, ce que je raconte dans Les Amants de Maulne, les visites au château, parce que ça faisait partie de mon enfance. Tout un univers, c'est peut-être aussi parce que j'étais jeune, un univers qui me manque et qui me fait du bien quand j'y pense aussi. Parce que je trouve que quand on a une belle enfance, une enfance riche et heureuse, ça donne de la force pour toute la vie, je pense. Et ces souvenirs-là me font du bien.
Et quand vous écrivez « La vie rêvée de Gabriel », bon, vous êtes contrainte de respecter les éléments biographiques de Gabriel Renard.
Oui, à 80%.
C'est pas frustrant un peu, où on perd un peu sa liberté de romancière? Parce que « Les Amants de Maulne », là, c'est une pure fiction, comme vous dites, c'est très, très, très romanesque. Les deux romans sont très différents l'un de l'autre.
Ah, tout à fait, oui. C'est la première fois que je faisais ce genre de livre comme Gabriel.
Et littérairement, entre Les Amants de Maulne et La vie rêvée de Gabriel, lequel des deux est le plus difficile à écrire?
Je dirais que c'est quand même Gabriel, parce qu'il faut quand même respecter, donc il faut trouver des scènes en rapport avec la réalité. Alors que dans un autre roman, les scènes elles viennent automatiquement à mon esprit. Je n'ai pas de contraintes, je fais ce que je veux de mes personnages, j'en fais ce que je veux.
Mais dans Les Amants de Maulne, il est... Tout de même question de certains noms d'épiciers, d'Ancy-le-Franc. Ce sont des noms authentiques?
Non, ce n'est pas des noms authentiques. Enfin, je pense, non. Ça peut se trouver comme ça, mais non, ce n'est pas authentique. Il y a des choses vraies et des choses fausses. C'est un mélange. Comme tous les écrivains, j'ai fait un mélange.
Le prochain roman est déjà écrit?
Le prochain roman est acheté par France Loisirs. Il sera présenté en avant-première au mois d'août, dans le catalogue de mois d'août. Il s'appelle « La promesse de Boisjoli ».
Et on est dans quel... On est en Champagne? On est en Bourgogne?
On est en Champagne, dans le village où j'habite d'ailleurs. Alors justement, on parlait de nostalgie. Je parle d'une boulangerie qui est en train de mourir. Je parle de la guerre de 40 où il y a eu des fusillés dans mon village. Et il y a un rapport, je ne dévoilerai pas quoi, mais il y a un rapport avec mon héroïne de maintenant.
J'aimerais, Liliane, merci pour ces précisions, j'aimerais qu'on revienne aux scènes au cours desquelles Renoir peint la belle Gabrielle Renard nue. Il y a un petit passage, c'est peut-être pas tout à fait lié, c'est lié plutôt à la qualité de la peinture de Renoir, c'est page 131. Il me semble que c'est Gabrielle qui dit au peintre ce qu'elle pense de sa peinture.
Oui. Vos toiles sont lumineuses, elles laissent filtrer la vie. On a envie d'entrer dans vos paysages pour flâner au bord de l'eau ou paresser dans un verger. C'est ce qui plaît. Comment pourrait-il en être autrement?
À propos de la peinture donc de Renoir, ces toiles lumineuses, il faut bien dire que Renoir peint la campagne, on l'a dit, des scènes rustiques et bucoliques. D'ailleurs, j'ai remarqué dans votre roman aussi... Bien sûr, vous parlez de conditions féminines, la campagne y est présente, alors on est tantôt en Champagne, il y a Paris, et puis il y a aussi le sud de la France. Il y a moins de descriptions, peut-être, pour les séjours des Renoirs dans le sud, le pays des cigales. Il faut dire qu'ils vont dans le sud plutôt par rapport à l'état de santé de, oui. de Pierre-Auguste oui. Renoir. Alors, tantôt, il s'appelle Pierre Renoir, tantôt, c'est Auguste.
C'est Auguste. C'est Pierre-Auguste, normalement. C'est Pierre-Auguste. Mais on l'appelait Auguste.
Et par rapport, justement, à la description, alors, les paysages, il y en a un peu, mais alors, vous avez un attrait très fort alors, pour la mode féminine. Alors, le chapeau est un élément vestimentaire qui est important, le chapeau. Il en est souvent question chez les femmes du chapeau et de la beauté des robes.
Ben, je trouve qu'à cette époque-là, déjà, les chapeaux étaient importants. Donc, et en fait, j'aime toujours les chapeaux. Donc, je trouve que c'est un plus à la toilette.
Et vous parlez d'ailleurs, alors c'est page 229, de la magie de la femme, de son corps souple et de sa peau dorée. Alors, on peut comprendre que les peintres, et notamment Renoir, aient été sensibles à cette beauté corporelle. Est-ce qu'aujourd'hui, les femmes sont encore très belles ? Est-ce qu'il n'y a pas un peu trop de négligence aussi ?
Souvent.
Il n'y a plus de chapeau, les femmes s'habillent moins, elles sont parfois en jogging, basket, oui. Moi j'en vois, oui. Ça dépend où. Enfin, à Paris, les femmes ne sont pas forcément mieux habillées qu'en province.
Non, d'ailleurs. c'est vrai, c'est, je trouve ça dommage.
Vous êtes très féminine, Liliane.
Je ne sais pas, merci.
Vous prenez soin de vous êtes une femme qui a des vêtements soignés. Il y a des femmes qui prennent peu soin d'elles.
Je trouve que c'est important, surtout en vieillissant quand même, c'est important de prendre soin de sa personne. Et je trouve que c'est... Oui, il y a des accessoires qui rehaussent la beauté. Je trouve que c'est dommage de s'en priver.
Qu'est-ce que vous pensez de... Alors, c'est une affaire de civilisation, de mœurs et de morale et de justice aussi, de toutes ces histoires qui ont surgi. Là, imaginez, par exemple, si Gabriel était allé dénoncer le peintre en disant « il m'a touché, il m'a caressé pendant une séance ». Qu'est-ce que vous y avez pensé un peu
Moi, je pense
il y avait
que
une espèce,
c'est...
juste, pardonnez-moi Liliane, je veux dire, si cette Gabrielle, elle pose, il y a une relation de complicité, oui. Quelque chose de très, sain, naturel.
C'est naturel. C'est
alors
pas
qu'aujourd'hui, mal finalement, même si un artiste était très sain et le modèle également, il y aurait peut-être entre les deux suspicion, crainte. Vous ne croyez pas que...
Je pense qu'en ce moment, oui, tout peut créer polémique hein, entre les relations hommes-femmes et c'est un peu dommage parce que je trouve que c'est quand même très exagéré. Je trouve qu'on a donné un peu trop d'importance à ce problème. Il y a eu des choses certainement qui se sont passées, mais il ne faut pas non plus généraliser.
Vous en voulez à certaines féministes qui sont un peu dans l'excès ?
Non, c'est leur problème, je ne leur en veux pas, mais je trouve que c'est dans l'excès. Moi, j'ai toujours travaillé, je n'ai jamais eu de soucis avec les hommes. Je me suis fait courtiser, comme toutes les femmes, et quand on dit non, on dit non, voilà, c'est tout. Hein. Ce n'est pas la peine d'en faire une histoire.
Alors qu'aujourd'hui, on a tendance tout de même un peu à montrer du doigt les hommes comme étant tous des cochons.
Voilà,
un peu
je trouve que c'est très exagéré, personnellement.
Mais je trouvais que cette question s'imposait, puisqu'on a parlé de nudité, de modèles de femmes nues devant un homme où il y a une différence d'âge, ou parfois être homme et alors un peu âgé avec des jeunes femmes, on est tout de suite un vieux cochon, mais il y a peut-être des jeunes cochons aussi, d'ailleurs.
Il y a peut-être des femmes qui se sont fait violer, qui ont connu des choses... comme ça, elles en parlent, c'est normal. Il y a certainement eu des abus, mais il ne faut pas généraliser quand même. Après, les hommes, ils ne vont plus oser faire un compliment à une femme.
Je suis bien d'accord avec vous, mais je trouvais qu'on pouvait aborder ce thème avec vous, Liliane Mosca. D'ailleurs, Gabrielle n'a pas de problème avec les hommes. Elle rencontre que des hommes respectueux. Bon, elle a quelques petits amants.
Elle
a
des amourettes, oui. Des amourettes.
Et finalement, on se demande si elle n'aime pas plus les hommes de la maturité.
Peut-être, parce que le mari qu'elle rencontrera, déjà, était un peu plus âgé et il ressemblait à Renoir.
Et il est artiste, peintre. Mais il n'a pas
la succès,
renommée.
Mais il s'en moque. Il s'en moque, il a de l'argent, il n'a jamais essayé.
Alors, justement, revenons au titre, La vie rêvée de Gabrielle. Il y a un terme important dans ce titre, c'est rêver. C'est la vie dont elle ne rêvait pas, en fait, Gabrielle. C'est pour ça que je parlais de destin exceptionnel au début de l'émission.
Non, je pense qu'elle espérait avoir une vie agréable, mais je ne pense pas qu'elle soupçonnait qu'elle aurait ce destin fabuleux.
En fait, sans les Renoir, Gabrielle n'aurait pas rencontré ce richissime Américain, non. Lui-même artiste, en fait.
Non, bah non, forcément. Parce que lui voulait rencontrer Renoir. Il a rencontré Renoir et Gabrielle.
Alors, Renoir, dans votre roman, on le voit heureux avec sa famille, s'occupant assez peu de ses enfants.
Oui,
d'ailleurs, c'était l'époque, les hommes ne prenaient pas tant soin que ça.
Déjà, à l'époque, et en plus, les artistes, enfin, ceux que je connais, s'occupent peu de leurs enfants. Ils sont vraiment dans leur monde.
Page 235, alors que Renoir est un homme âgé, mais en plus, il a de gros problèmes de santé, puisqu'il a une polyarthrite qui l'handicape gravement.
Oui,
il est même question de fauteuil roulant à un moment
roman. Oui.
Et je voudrais juste lire ce passage, Liliane. Donc c'est Renoir, homme heureux tout de même, qui dit à Gabriel « Je suis un homme heureux, Gabriel. Vois-tu, malgré cette saleté de polyarthrite qui me ronge et me tasse, je n'ai pas le droit de me plaindre. J'ai réalisé ce que je devais faire. J'ai reçu ce don et je l'ai exploité jusqu'à ce qu'il remplisse ma vie. Et de quelle façon ? La peinture a fait mon bonheur et j'ai la prétention qu'elle en apporte un peu à ceux qui l'aiment. N'est-ce pas un partage magnifique ? Là, vous êtes, évidemment,
je me mets dans la tête de Renoir. Je me mets dans la peau de Renoir.
C'est extraordinaire, liberté qu'a l'écrivain.
Ben, oui, je pense qu'il a pu ressentir ça. Peut-être pas exactement formulé de la même façon, mais je pense qu'il a pu ressentir ça.
Et vous, est-ce que vous avez reçu le don de l'écriture, le don d'inventer des histoires, d'en créer ou parfois de refaçonner justement les histoires de gens connus, comme celle de Renoir et de Gabriel Renard?
Moi, c'est un cadeau que j'ai reçu, l'écriture. Je dis toujours que c'est un cadeau du ciel parce que, en fait, c'est exactement ce que j'ai écrit là. Ça me rend heureuse. Et les gens qui me lisent et qui aiment mes livres, ça les rend heureux aussi le temps de la lecture. Donc, c'est aussi un partage.
Vous êtes tout de même vendu à un grand nombre d'exemplaires, à rendre jaloux certains auteurs bourguignons.
Toutes générations confondues, oui. Par exemple, les Amants de Maulne, je ne sais pas si je peux le dire, je les ai vendus à 40 000 exemplaires. Il est passé aussi par France Loisirs.
Est-ce que Les Amants de Maulne n'est pas un roman plus féminin que La vie rêvée de Gabriel? Alors, il est terriblement romanesque avec cet univers de légende, ces guérisseuses.
J'avais envie de ça, j'avais envie de quelque chose de très romanesque qui se passe près des châteaux. J'avais envie de ça, avec une héroïne mystérieuse. J'avais envie de ça et je l'aime beaucoup ce roman. En fait, j'ai écrit ce que je voulais.
Tout en revenant un petit peu par le biais de l'écriture à Oncilfranc, Auxerre et ce château de Maulne qui est complètement valorisé.
Oui, ça m'a fait plaisir d'écrire, de le situer là. Voilà. Et j'aime mes héroïnes.
Dans La vie rêvée de Gabriel, il y a cette je crois que c'est le narrateur qui doit dire cela. Je crois que le bonheur, non, c'est un de vos personnages, me semble-t-il. Je crois que le bonheur n'est pas un état constant. Il va et vient et nous éclabousse parfois de petits éclats précieux qu'il faut reconnaître pour en jouir, sinon ils ne reviendront plus. Non, c'est Renoir carrément qui dit cela, me semble-t-il, à Gabriel. Le bonheur n'est pas un état constant
Non, je pense que ce n'est pas un état constant. Je pense qu'il faut savoir prendre ce qu'il nous donne au moment où il nous le donne, mais ce n'est pas un état constant. C'est ce que je pense.
Liliane, vous êtes avec ce dernier roman, vous avez revisité la vie d'une petite bonne champenoise. Est-ce qu'à Essois, elle est une citoyenne célébrée? On la connaît dans ce village d'Essois dont elle est originaire?
Oui, beaucoup, beaucoup. Il y a sa photo sur les murs et tout. Il y a le centre Renoir aussi, qui vend des livres, qui vend des accessoires, qui vend des trucs sur sa vie. Plus maintenant, il y a la maison. Et il y a les chemins. Monsieur Pharisien, qui m'a donné tous les documents, fait visiter le village, les maisons où Renoir a vécu et les petits chemins où il allait peindre. Donc, ça attire beaucoup de monde.
Donc voilà un but de promenade quand on est bourguignon.
Ah, tout à fait. Surtout que ça fait un an que la maison de Renoir est réhabilitée et très joliment décorée.
Donc, il y a un site internet par rapport à cette maison Renoir à Essois.
Oui, oui.
Mais c'est vrai qu'on a envie d'aller au milieu du vignoble voir ce petit village d'Essois.
On se replonge vraiment dans l'univers de Renoir, dans sa maison. C'est très, très bien fait.
Nouvelle et dernière petite virgule musicale au sein de notre émission. Et puis on se retrouve juste après donc avec Liliane Mosca, qui a fait paraître le 15 mars dernier La vie rêvée de Gabriel, muse des Renoirs. Le livre est actuellement disponible en librairie aux éditions des Presses de la Cité.
Wagon Livre, votre émission littéraire. Chaque semaine, Yannick Petit offre un certain regard sur la création et explore l'actualité littéraire et éditoriale. Wagon Livre, en direct chaque mercredi à 21h sur Radion et Radion.fr. Proposé et présenté par Yannick Petit, archives et podcast sur yannickpetit.fr.
C'est Liliane Mosca qui est notre invitée avec son tout nouveau roman intitulé « La vie rêvée de Gabriel ». Un petit extrait et une petite lecture par l'auteur qui nous accompagne. Alors, c'est un repas qui a lieu à Paris, chez les Renoirs. Les Renoirs reçoivent, alors il y a Degas, il y a d'autres artistes présents. Et vous ressuscitez cette scène, Liliane Mosca. On vous écoute, s'il vous plaît.
Le repas se déroule dans une ambiance chaleureuse et gaie, une ambiance à peindre. Pierre-Auguste ne cache pas son plaisir de revoir ses amis. Au préalable, et tout en préparant les plats, Marie avait dévoilé à Gabriel ce qu'elle savait des invités. Monsieur Degas, un homme solitaire et colérique, qui s'emballe quand on parle politique. Passionné par les arabesques des danseuses, il en peint beaucoup. Claude Monet, quant à lui, aime faire rentrer la lumière dans ses toiles, ce qu'il fait avec finesse dans de superbes marines, obsédé par les images changeantes des formes et des couleurs. Et à Bellefèvre, c'est un caricaturiste célèbre. Il peint aussi et pas mal du tout, assure le patron, de même que le critique d'art Arsène Alexandre. Lui, Ginny peint, tu vois, il touche tous du pinceau. Mais il est aussi graveur. Quant à Jeanne Baudot, la fille du docteur, tu l'as sans doute déjà vue ici, puisqu'elle travaille sous les conseils de Renoir. Oui, elle est très élégante et pleine d'esprit, c'est déjà ça. Elle rit et continue. Je connais Julie Manet aussi, mais pas ses cousines. Ah, Paul et Jeannine Gobillard, un vrai bouquet de printemps. Ainsi, mise au parfum, comme dit Marie, Gabrielle sera plus à l'aise et ne commettra pas d'impair. Tout ce beau monde, d'ailleurs, et même s'il ne manque pas d'argent, ne fait pas de manière. Renoir ne le supporterait pas, lui, l'ouvrier de la peinture.
L'ouvrier de la peinture, périphrase pour désigner Renoir, qui d'ailleurs se considérait plus comme un artisan que comme un artiste.
Il disait ça, un artisan de la peinture.
Dans « Les amants de Mône », j'ai relevé cette phrase. C'est un des personnages qui dit à la jeune fille du roman, au cœur de l'action, « Tu es mieux que les autres, ma fille, et ceci grâce à moi qui t'élève au sein de la vraie vie. La nature, les animaux, la musique, eux seuls ne déçoivent pas. » Ramené à la vie de Gabriel, mais également à celle de Renoir. Donc Renoir a vécu à travers la peinture, à travers son artisanat, dans ce cas, plutôt que son art. La vraie vie pour Liliane Mosca, qu'est-ce donc la vraie vie pour Liliane Mosca ?
Les choses authentiques, ce que dit la maman de mon héroïne.
Donc la nature, les animaux, la musique.
Oui, les arts.
Donc vous vous retrouvez évidemment dans cette formulation.
Oui.
Alors, les amants de Mône, effectivement, on est dans le Tonnerrois. Alors, il y a plein de références. Hein. Vous parlez du restaurant du centre à Oncilfranc, vous parlez de la fosse d'Yonne qui se trouve à Tonnerre, le bois de Pimel, il y a Cruzy, il y a la forêt de Stigny, le petit village de Stigny que je connais un petit peu d'ailleurs pour des raisons amicales. Ça vous fait sourire tous ces noms. On sent que ça éveille quelque chose en vous.
Oui, tout à fait. J'ai aimé faire revivre cette région.
Alors, il y a le château d'Oncilfranc.
Parce que quand mon héroïne Jeannette, la fille de Rachel, fait le ménage au château, et moi, ma grand-mère a fait le ménage au château.
Sauf que vous avez changé les noms de la famille.
Oui, bien sûr.
Là, c'est de la Guérinière. Mais...
Voilà, bah ça, c'est romancé vraiment.
Et puis, il y a l'aspect légende. Je le dis aussi
oui,
dans
moi,
Les Amants de Mône.
Ça, moi, je suis romanesque.
Mélusine, Mône, le château de Mône, ça vous
légendes,
plaît, ça.
J'aime les choses qui n'existent pas, en fait.
Et puis, vous rappelez qu'Alfred Grévin, alors autre artiste, qui a donné son nom au célèbre...
Qui
est originaire d'Épineuil.
Voilà, c'est bien de rappeler tout ça. Les gens ne savent pas toujours.
En tout cas, grâce à vous, sur un plan personnel, j'ai appris qui était Gabrielle Renard. Je ne la connaissais pas avant d'avoir lu votre roman.
Ben écoutez, j'en suis ravie.
Je connaissais Renoir, bien sûr, mais pas Gabrielle Renard.
J'espère que d'autres personnes seront aussi heureuses de la connaître.
Une vie, je trouve, époustouflante pour une petite bonne sortie de la campagne qui, tout de même, est enterrée aux États-Unis aux côtés de son mari, qui s'appelle donc Conrad Slade.
Oui, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé de Jean, mais en fait, après, dans la deuxième partie de sa vie, elle consacre beaucoup de temps à Jean, qu'elle a élevé.
Donc le fils Renoir.
Le cinéaste. Donc elle le suit aux États-Unis et elle a une relation très particulière aussi avec lui.
Alors, c'est vrai
chaleureuse.
C'est vrai que vous montrez aussi que les Renoirs ont tous embrassé des carrières artistiques.
Oui.
Les chiens ne font pas des chats.
Et oui, ils étaient tous les trois artistes à leur façon.
Et Gabrielle n'a pas eu tellement... Elle a été rentière, elle n'a pas eu trop à travailler.
Ah non, elle n'a pas eu à travailler du tout.
Elle
avait fait vraiment un riche mariage. Oui, elle a assez donné avant parce que quand même... Elle a beaucoup, beaucoup travaillé aussi. Elle n'a pas que posé.
Et quelque part, elle a eu sa célébrité en son temps. Parce qu'il y a des hommes qui, la voyant, des hommes un petit peu qu'on imagine cultivés, venant tout de même du grand monde, disent « mais je vous ai déjà vu quelque part ». Vous êtes actrice, comédienne, et elle dit, elle finit par avouer « oh, mais j'ai posé pour Monsieur Renoir ».
Oui, et quand elle est allée aux États-Unis, elle était célèbre. Elle avait des articles dans les journaux, « modèle de Renoir qui vit à côté de Jean Renoir ». Elle a été célèbre là-bas. Et donc, elle a connu les artistes aussi. Elle a connu Charlie Chaplin.
Jean Gabin.
Oui, qui passait chez Jean Renoir, et elle faisait la cuisine.
Est-ce que l'an prochain, dans le petit village d'Essois, village natal de Gabriel Renard, est-ce qu'on commémorera en 2019 le 60e anniversaire de la mort de Gabriel?
Oh, je pense, oui, je pense. Je pense, et le Centre Noir va vendre mon livre aussi, je pense. Je ne sais pas encore.
Merci Liliane Mosca d'être venue de l'aube devant le micro de Wagon Livre, l'émission littéraire de Radio. Je rappelle à nos auditrices et auditeurs, donc le titre de votre dernier roman, La vie rêvée de Gabriel, muse des Renoir, aux éditions des Presses de la Cité. Merci beaucoup Liliane. Et puis la semaine prochaine, dans Wagon Livre, alors nous allons parler de Antonin Artaud, autre figure intellectuelle, théoricien du théâtre. Nous recevrons Laurent Vignat, qui justement a écrit une biographie de Antonin Artaud, dont on commémore cette année 2018 le 70e anniversaire de la disparition. Bonne soirée à toutes et à tous, au revoir, et à mercredi prochain, toujours à 21h sur Radion. Au revoir Liliane.
Au revoir, merci.